La deuxième partie de Girondin Analyse, l'émission 100% supporter, c'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur girondinanalyse.com.
Allez, bonsoir à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans l'émission Girondin Analyse. On est bien sûr ensemble pour encore une heure, hein, jusqu'à 23h, pour donc commenter l'actualité et surtout donc toutes les questions que vous pouvez vous poser, hein, sur les Girondins de Bordeaux. Nous avons deux invités exceptionnels ce soir, puisque donc c'est Franck Manteau et Alain Bénédé qui sont avec nous, coach adjoint donc de Francis Gillot.
La prochaine émission, on dira invité récurrent.
Et donc du coup on avait donc entamé, on a parlé avec eux donc pour l'instant Mercato et donc de l'actualité des Girondins. Messieurs, on va parler maintenant du projet de jeu que vous avez, de la politique et des rapports avec la direction et des jeunes. Voilà, histoire d'évoquer un petit peu le contexte girondin dans la globalité. Alors on va repartir directement pour la question que personne se pose. On va pas la refaire, hein, mais rappelez, donc elle est sur, vous pouvez aller voter. Allez, bon, on y va.
En vitesse
à ce moment-là.
Elle est si belle.
Voilà.
La question que personne ne se pose.
Question que personne ne se pose du soir, je l'ai aussi. Question que personne ne se pose du soir. Pourquoi Alain Bénédé et Franck Manteau ont-ils accepté de venir à Girondin Analyse? Réponse numéro 1, parce que c'est l'occasion de faire un barbecue gratuit, et ils l'ont fait. Réponse numéro 2,
bon,
hein. Ouais, ils ont consommé, mais on vous raconte pas, hein, nous derrière. Donc, Franck, il a un coup de fourchette, c'est impressionnant. Hein. Donc, parce que Marc vous saoule à cause de ses textos et ses appels incessants, et que vous vous êtes dit que venir saler et pouvoir le calmer pendant un moment, je suis désolé de vous contredire, messieurs, c'est peine perdue. Hein. Parce que vous avez perdu la belote dans l'avion contre Francis Gillot et René Lobello, et que le gage, c'était de venir, et les deux vannes pourries, parce qu'on supporte Manteau, vos applaudissements s'il vous plaît, et parce que Bordeaux est notre religion et qu'on a confiance en l'abbé Nédé. Voilà. Si vos joueurs écoutent, messieurs, il y a peut-être un vieux surnom qui va traîner dans les vestiaires à partir de maintenant.
Hein. Ils sont consternés, hein, par les deux derniers. Hein.
Ah ouais, non, mais, elles sont d'un niveau en même temps pitoyable.
Personne ne vous a vraiment sorti un jour, c'est de remarquer l'abbé Nédé et Porte-Manteau, non.
Marc.
En même temps, heureusement, parce que c'est tellement pourri. Bien, allez.
Moi, je me balance, c'est quand même moi l'indigne auteur de ça.
Et tu peux être professionnel et avoir un humour dégueulasse, hein. c'est pas compatible.
Bah, visiblement, la dernière fois, vous avez dit que les vannes de Nicolas Maurice Belay, qu'on attend toujours d'ailleurs sur Girondin Analyse, qu'on a vu une fois au téléphone, mais qu'on attend en studio pour venir nous faire une petite séquence rire et chanson, ça pourrait être sympathique. Bien, messieurs, on va donc parler projet de jeu. Alors, on en a parlé donc du départ de Yaroslav Plazil. La question, elle est simple. Comment est-ce que Bordeaux va jouer donc avec le départ de Plazil? Qui est son remplaçant? On pense tous à Grégory Sertic, mais on aimerait avoir la confirmation. Et quel système allez-vous adopter? On a vu un 3-5-2, on a vu un 4-2-3-1. Qu'est-ce que vous pensez?
On a vu un 4-3-3 aussi.
Ouais, qu'est-ce que vous pensez pour la
saison? On va avoir la compo et l'organisation tactique pour Francfort. Ils parlent allemand, ils comprendront pas, donc ça va.
Non, écoutez, nous on a, il nous tarde d'avoir un garçon comme Sertic revenir dans le groupe. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui voit très vite le jeu, qui est un bon distributeur de jeu, qui sait alterner jeu court, jeu long. C'est un métronome pour l'équipe. Et son absence nous fait défaut pour l'instant, on le ressent, on en est convaincu. Greg a franchi un palier très important la saison dernière, comme Henri CV. C'est des garçons d'avenir. Alors peu importe le système, tout le monde parle de système. Nous, ce qu'on réfléchit tous les jours à voir quelle équipe, la meilleure équipe qu'on va mettre sur le papier pour le match qui arrive. Après, on détermine le système en fonction de l'adversaire. Mais voilà, on peut jouer un losange au milieu, on peut jouer. L'année dernière, il y a deux ans, on avait joué en 3-5-2, ce que fait Toulouse à l'heure actuelle, ils ne prennent pas de points. Voilà, donc bon, le système, on peut en débattre jour et nuit. Nous, le plus important, c'est d'arriver à rééquilibrer l'équipe et à avoir des garçons déterminés pour aller de l'avant et, comme on a évoqué en début d'émission, avoir de la détermination sur le terrain.
Alors Seb, je vais te donner la parole. Tu avais posé une question quand on a préparé l'émission sur Tchèque Diabaté.
Oui, ben, c'est exactement.
Voilà. Oh, et j'aimerais putain, que coup, on tu est fasses bon, un, on petit, est bon. Un petit combo avec celle qui suit également sur l'animation
bon.
Offensive.
Oui, alors c'était plus une question, c'est une remarque. Je me désole, j'ai de la peine pour Tchèque Diabaté. enfin, je sais pas si vous le voyez comme ça, ce garçon est désespérément seul. C'est-à-dire que pendant une heure et demie, il scoltine à chaque fois les deux centraux contre Bastia, c'était Modesto. Comment s'appelle-t-il, Skilacci, Paris, c'était Thiago Silva, Alex. Il est tout seul, le pauvre. Il est strictement tout seul. Enfin, alors je suis ni professionnel ni rien du tout. J'ai l'impression que ce mec-là, il est seul devant. Et puis alors débrouille-toi, mon pote. On t'envoie ce qu'on peut t'envoyer. Tu fais 2m50. Si t'arrives à les attraper, c'est bien. Je suis désespéré de voir à quel point ce garçon est seul. Mais je sais pas. Alors peut-être.
Alors, donc,
que...
du coup, la question c'est comment réussir à
la question c'est voilà comment elle est où voilà, surtout... comment réussir à épauler Tchèque Diabaté voilà.
Qui et semble... on relie ça avec l'animation offensive. Donc comment l'améliorer voilà.
Ce qui est impressionnant, c'était qu'il y a 6 mois. Rassurez-moi, Tchèque n'était pas le seul sur la feuille de match quand même.
Mais non, mais c'est pour ça que je demande. C'est pour ça que je vous demande parce que
quelle composition d'équipe. Quelle composition d'équipe vous avez vu contre Paris?
Ça devait être un 4-4-2, je pense, mais.
Bah, ils font quoi les trois autres, quoi?
J'ai vu un 4-4-2.
Quoi les trois autres?
La question est simple, c'est que Cheik, il est resté en pointe et nous, on est resté trop reculés. Et sur un côté, vous avez Henri Cévé, qui est un garçon qui percute, qui va de l'avant et qui est un dribbler. Vous avez un garçon comme Roland, qu'on a mis côté droit, mais qu'on n'a pas vu parce qu'il a reculé tellement qu'il a voulu jouer défensif. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'avère qu'après, quand on montait les ballons. Cheik a eu du mal aussi à les garder en première mi-temps dans la fixation. On sait que Cheik, quand il garde bien les ballons, ça nous permet de bien ressortir derrière. Cheik a perdu beaucoup de ballons sur la première mi-temps de Paris. Voilà, c'est un match où il a été un peu plus en dedans. Et ce qui nous a fait courir énormément, où on a perdu beaucoup. Pourquoi ? Parce que le bloc, on a un gros problème de souci de bloc, c'est que notre bloc reste très écarté entre les lignes. On a derrière des garçons comme Lamine et Carlos traînent derrière au lieu de faire avancer le bloc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été plus intrigués par un garçon comme Ibrahimovic qui, lui, il ne s'inquiète pas, il est toujours en position d'hors-jeu. Mais nous, au lieu de les laisser hors-jeu, eh bien, nous, on le couvre alors qu'il ne revient pas dans son camp. On s'en fout de ça. Le problème, c'est que le bloc, le fait que les défenseurs restent derrière, quasiment dans la moitié défensive de notre camp, alors qu'ils devraient se trouver à la médiane. Et quand vous voyez les deux milieux de terrain, que ce soit Poco et Nguemo, les kilomètres qu'ils ont fait entre la défense et la position où se trouvait Cheik, eh bien, on a perdu beaucoup de lucidité et beaucoup de force dans la bataille. Il y a un gros travail de bloc, c'est quelque chose qu'on évoque, Franck, il ne va pas me démentir à ce niveau-là, il peut l'évoquer aussi. On a un gros souci de travail de bloc, c'est-à-dire les trois lignes compactes pour favoriser les attaquants quand on part en attaque et les attaquants revenir pour refaire le bloc à la perte du ballon. Voilà.
Ce serait pas plus facile. Juste rebondir sur un truc, ça. Oui. Pardon. Non, oui, juste pour revenir sur le bloc, parce qu'on se faisait souvent la remarque, et je sais que Marc il est plus ou moins d'accord avec ça aussi. Je suis désolé de vous dire ça, hormis Orban et Roland, cette équipe ça fait quand même 2 ans qu'elle joue ensemble, ouais. Ou plus de ou 2 ans ou 2 ans et demi même. Je suis désolé de vous le dire, ça saute pas aux yeux quoi quand on voit certains matchs ou certains. Je sais pas, au bout de 2 ans et demi quand même, ils devraient le savoir, c'est même plus à vous de leur dire. C'est non, ça.
Et Marc, juste pour compléter la question,
oui, je complète parce que ça m'a beaucoup fait rire en fait de voir le retour de la mi-temps. J'ai l'impression que vous avez mis un gros shoot à certains joueurs. Première mi-temps, à chaque fois qu'on fait un pressing, j'ai l'impression que les joueurs pressent mais pas l'équipe. Il y en a un qui va presser et le bloc monte pas et suit pas. Seconde période, là ça pressait bien, les ailiers pressés, les milieux pressés, les récupérateurs montaient d'un cran, toute l'équipe suivait, ce qui fait pour moi qu'on a vu les 10-15 meilleures minutes de Bordeaux jusqu'au second but qui a on va dire fini le match. Comment se fait-il que alors soit les joueurs ont une mémoire de poisson rouge et souviennent sur un très court instant qu'il faut presser en équipe, comment vous pouvez réussir à inculquer ça aux joueurs que une formation ça bouge en bloc, qu'on a des zones à respecter, qu'il faut presser en bloc, s'il y en a un qui presse en une passe, il est dans le vent, il a couru pour rien. Comment se fait-il que les joueurs n'aient aucune intelligence, là j'appelle ça de l'intelligence tactique.
Non mais
on est méchant, mais on
fait ça. Il y a quelque chose qu'on a évoqué dans le premier sujet de la soirée. Ça a été le commandement. Un pressing, on peut le faire, mais n'importe qui peut aller faire un pressing. Mais si vous avez vos deux attaquants qui vont presser alors que la défense reste derrière à 50 mètres, je ne vois pas pourquoi on va faire un pressing. Quand on travaille en bloc, qu'on a envie d'y aller tous ensemble, on est performant partout. C'est-à-dire, si je veux revenir à Cheik, il peut jouer 100 ans devant. Si on ne déborde pas et qu'on n'y amène pas de ballon, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait en pointe. Voilà, un attaquant, il est là pour recevoir des ballons. Échec, là où il est fort, c'est quand on lui amène des ballons. Mais pour amener des ballons, il faut qu'on joue très haut, il faut qu'on soit compact à tous les niveaux. Et pour cela, il faut avoir une grosse intelligence de jeu, une grosse envie de vouloir jouer ensemble. À l'heure actuelle, on n'est pas ensemble. On a un gros défaut depuis le début du championnat, c'est qu'on n'est pas ensemble. On est capable, parce que je reprends la première mi-temps de Bastia. On a été imposant sur la première mi-temps, de la première minute à la 45e minute. Pourquoi on relâche aussi vite la pression, le fait de mener au score? Et pourquoi on ne le fait pas tous les matchs? C'est la question que l'on se pose tous les jours, c'est ce que l'on fait à l'entraînement, c'est l'accent que l'on met là-dessus, mais pour cela, il faut persévérer encore pour retrouver cette confiance qui animait le groupe l'année dernière. Oui. À un joueur, deux joueurs près, on a la même ossature. Donc je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on a tout gommé. Donc c'est quelque chose que l'on répète en permanence, c'est quelque chose que l'on travaille tous les jours de la semaine. Et voilà, donc à nous d'être encore plus exigeants. Ça demande de l'exigence, ça demande aussi que les joueurs se remémorent un petit peu ce que l'on dit. Tout à l'heure, j'évoquais qu'avant le match de Paris, on avait travaillé la vidéo. Ça demande aussi d'être réceptif dans ce que l'on dit.
Mmh. Et de la jugeote.
Parce que ce matin, on a fait une séance d'entraînement, j'ai fait le circuit technique. On aurait dit que c'était le Club Med pour faire une passe des 1-2, mais ça demande de la concentration. Il faut être en permanence avec eux dans la concentration. C'est notre job, nous on ne lâchera rien. Donc les joueurs, il faut qu'ils se remettent dans le bon sens. Du poil pour qu'on puisse maintenant aller de l'avant et être performant, parce que tout ce qu'on évoque là, c'est tout notre ressenti, c'est ce que vous voyez aussi. Donc voilà, donc on va travailler en conséquence tous les jours et il faut rabâcher.
Franck, vous voulez réagir?
Vous pouvez mettre tous les systèmes en place, hein, et c'est une évidence. C'est pas les systèmes qui font une équipe, c'est l'animation que vous pouvez faire.
Ah, merci. On le chante sur Journaliste depuis un bout de temps.
Si vous n'avez pas les bons joueurs au bon endroit ou par rapport à l'animation et au système que vous mettez en place, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas. Qui plus est, comme disait Alain, si vous ne jouez pas ensemble et au même moment, il y a un décalage qui se fait. Le pressing, pour venir au pressing, qui commande un pressing? Un pressing, c'est pas l'attaquant qui commande le pressing, c'est le joueur qui est derrière lui, c'est le milieu de terrain. Et si le milieu de terrain n'est pas en place, c'est le défenseur. Ça part déjà, donc effectivement, sur les lignes intermédiaires. Mmh. Et à partir de ce moment-là, sur un ballon, sur un côté, là, on fait le pressing en place. Si l'attaquant, voire le milieu de terrain qui doit presser en second rideau n'est pas en place, là, forcément, là il doit dire, hop, on n'est pas en place, on recule, on recule. Voilà, le plus important, c'est que par rapport à ce que disait Alain, c'est que moi j'ai la sensation et l'impression qu'on ne joue pas ensemble au même moment par rapport à la récupération. Et l'animation, où je répète, c'est pas les systèmes qui font, c'est de l'animation.
Messieurs, Thibaut et donc Franck, tu peux
déjà garder... J'applaudis grandement ce que nous dit Franck, parce que c'est un peu la sensation que Thibaut, personnellement j'ai eu contre Paris. Donc,
Thibaut va vous parler bricolage, monsieur.
Voilà, donc alors je ne suis pas monsieur bricoleur ni Castorama ni je sais pas quoi.
Monsieur bricolage surtout.
Monsieur bricolage, oui, oula, tu vois, donc du coup on a souvent entendu dire que Francis Gillot bricolait ses compositions au milieu de terrain, notamment. Donc, sont-elles du bricolage, entre guillemets, hein, où y a-t-il... Alors, la question, elle est un peu mal tournée.
Le terme bricolage, il l'emploie lui-même, hein, Gillot.
Non, on reprend son thème. Voilà.
Il est un peu vulgaire, mais c'est lui-même qui le dit souvent.
Thibaut, du coup, donc, pour finir la question...
Et donc, du coup, où y a-t-il un vrai... la question est un peu mal posée, mais y a-t-il un vrai projet de jeu pour du moyen terme? Si oui, quel est-il? Pensiez-vous, en arrivant à Bordeaux, que... Vous en serez encore là au bout de 2 ans, c'est-à-dire à tester beaucoup de combinaisons. Parce quand on parle de bricolage, on a vu à un moment donné Fauberge au milieu de terrain, on a vu, vous avez essayé avec Sané, vous avez essayé avec Nguemo, vous avez essayé avec Poco, vous avez essayé avec Tremolina, vous avez essayé avec Plasil en reculant Plasil, c'est au Braignac aussi. Donc il y a beaucoup de combinaisons qui ont été testées, peu ont donné satisfaction. Est-ce que vous pensiez, vous, quand vous avez signé au Girondin et re-signé au Girondin, qu'au bout de 2 ans, vous en seriez encore là?
Ça a l'air de vous passionner, messieurs, cette question.
Ouais, tout à fait, c'est très bien. Non, mais déjà,
non, c'est Francis, Gillot qui emploie le terme de bricolage.
Ah, non,
qu'on
me rappelle, c'est juste quand je vois la boue, justement, de Franck.
Un entraîneur est toujours là pour chercher la meilleure formule. Francis dit bricolage, mais vous prenez tous les entraîneurs et ils cherchent toujours le meilleur rendement de l'équipe. Ça c'est normal, ça fait partie du métier. Il faut toujours être dans l'observation, toujours rechercher ce que l'on veut. Il a une ligne de conduite, mais il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Ben, c'est normal, il faut fouiller, il faut tripoter, il faut essayer de connecter, avoir plusieurs connexions à plusieurs fils. Mais bon, quand on parle de Faubert, pourquoi Faubert on avait monté d'un cran pour donner un peu plus de percussion sur le côté? Parce qu'on ne l'avait pas. Parce qu'on avait mis Henri avec Cheikh dans l'axe, qui avait bien fonctionné d'ailleurs, et on n'avait pas cette perforation côté droit. On a Ludo, mais Ludo, c'est pas quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui est plus droitier, c'est un gaucher, mais qui joue à droite pour rentrer sur son pied gauche. Voilà. Et on avait Nico côté gauche, mais Nico, des fois, ça lui mal d'aller de l'avant, alors qu'il a toutes les qualités pour aller plus de l'avant.
Et Ben Kalfala bon.
Il y a Faïd, mais bon, voilà. Faïd, le dernier match où il a joué, bon, il était un petit peu pris sur les sifflets aussi des supporters. Donc bon, Faïd tripote beaucoup. C'est un garçon qui est capable d'aller de l'avant, mais qui aime bien faire ses roulettes, bien repartir. Donc on perd un temps fou. Ce qu'il faut dans le football maintenant, c'est de percuter. Percuter, ça veut dire prendre le dessus sur la défense. Tout à l'heure, on évoquait Cheikh. Mais si sur les côtés, on ne déborde pas pour amener les ballons, je ne vois pas comment il peut marquer les ballons. Quand Cheikh a marqué des buts, c'était toujours sur les débordements. Donc il faut qu'on persévère là-dessus. On n'arrête pas de faire des évolutions la semaine pour retrouver un petit peu ces sensations-là. Mais bon, pour l'instant, ça a du mal à prendre. Alors, que Francis cherche la mayonnaise au milieu terrain, oui. Et ensuite, la question qui était posée,
projet de jeu.
Est-ce que vous pensiez que Francis en arrivant, quand il est arrivé à Bordeaux, Francis avait fait un état des lieux de l'équipe. Il avait vu les manques qu'il y avait dans cette équipe-là. Ça manquait beaucoup de percussion vers l'avant, beaucoup de profondeur.
Ils sont mais toujours bon, là, les manques aujourd'hui, deux ans après, c'est ça.
Ouais, mais après, attention. Après, on est toujours là, mais il y a des garçons qui ont des contrats à longue durée.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on veut vos réponses.
On ne dit pas que c'est votre faute.
On a les poings et poignets liés, on est coincés. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'on a encore une saison à tenir, parce que je pense qu'il y a un renouvellement au sein du club qu'il va falloir faire, intelligemment, en moulant maintenant. Penser à cette saison, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avec les bœufs. Il y a une saison, on a cet effectif, on va faire avec, et les joueurs sont là. S'ils sont là, c'est qu'il faut aussi en tirer encore profit le maximum de cette équipe-là, et après on verra la saison prochaine.
Juste, voilà. Messieurs, enfin Alain en l'occurrence, tu viens de nous dire que ces joueurs, donc il y aura un roulement l'an prochain, on ne l'a pas posé dans le mercato.
Non, il n'y aura pas de roulement.
Il y aura les fins de contrat, c'est ce que je voulais dire, dans le sens, un bouleversement dans l'effectif. Concrètement, aujourd'hui, dans les joueurs, on voit que donc certains prolongent.
Je vois mal des joueurs qui sont là depuis 4 ans, certains prolongés encore 3 ou 4 ans. Ou on fait un club med longue durée, ou alors le club a envie de rebondir, aller de l'avant.
Il y a 10 fins de contrat aujourd'hui, normalement pris pour 2014. Dans ces 10-là, je compte Certic qui n'est toujours pas prolongé, mais apparemment ça va être fait. Henri CV, Thierry Carasso, c'est 2015. Mais donc ça veut dire qu'on pense à justement. Notamment Landry Nguemo, Maurice Belay, ça veut dire que ces garçons-là ne sont pas susceptibles.
Ces garçons-là, ils ont une carte à jouer cette année. S'ils ne la jouent pas, ben voilà, il faudra qu'ils aillent voir ailleurs. Je veux dire, le football maintenant, c'est ça, quoi. Il faut du rendement. Tout à l'heure, on parle des joueurs du rendement, mais si le joueur ne donne pas du rendement, je vois pas pourquoi on fait signer un joueur. Il y a des joueurs qui sont sur la touche, il y a des joueurs qui sont au chômage, il y a des joueurs qui ont de l'envie, il y a des joueurs qu'on fait. Et ben, il faut faire confiance à ces joueurs-là qui ont envie de trouver un club. Et après, le club envisagera de voir si on peut les prendre ou pas. Mais ça fait partie de la vie. On peut pas. Moi, demain, on m'aurait proposé de rester ou Franck 4 ans et 4 ans de plus d'un club, je signe de suite. Oui, ben, tranquille, hein, je risque rien pendant 8 ans. Hein. Donc non, je crois qu'il y a des remises en question. Il faut aussi que... Ce n'est pas de rendre service aux joueurs de les prolonger 4 ans de plus. Quoi. Voilà. 4 ans de plus, quand on veut investir sur des joueurs, quand je prends le rendement de CV la semaine dernière et vu ce qu'il investit cette année, ça, c'est de l'avenir. Voilà, il faut rester clair. Des garçons comme Certic, pour moi, c'est l'avenir. Quand on parle de Carasso, c'est un pilier pour le club, parce que c'est quelqu'un qui se donne pour le club. Donc, il n'y a pas de raison. Après, on fait cas par cas, mais il faut bien étudier la chose. Maintenant, il faut aussi penser à l'avenir du club et avancer. Il y a un virage qui se prend, et le virage important.
Thibaut, pour compléter.
Oui, pour compléter la question, parce que tout à l'heure, vous parliez de renouvellement d'effectifs, etc. Est-ce pour ça que vous avez que Francis Gillot et que le staff a prolongé son contrat? Pour justement, arriver justement à construire une équipe plus avec à son image.
Ben oui, Francis, il a re-signé et qu'on a re-signé avec lui, c'est parce qu'il y a un projet par le club. Ce projet, on sait que cette année, c'est encore une année difficile parce qu'il y a des joueurs comme Oulévard qui ne sont pas partis parce que ça ne s'est pas fait. Et ben, il faut aller au bout de ce contrat de ces joueurs-là. Et comme je disais tout à l'heure, Francis en est conscient qu'il y a un roulement qui va se faire en fin de saison, de 6-7 contrats qui arrivent. Oui, c'est 7 joueurs qui arrivent en fin de contrat, pardon. Mmh. Et c'est maintenant que l'avenir va se préparer. Mais Là, on l'évoque ce soir, mais je pense que pour l'instant, notre concentration, elle est sur cette saison.
Oui.
C'est un virage important aussi pour bien figurer dans le championnat, pas faire n'importe quoi, et motiver les joueurs déjà dans la situation où on se trouve pour aller de l'avant.
Marc, très vite. Et après, les gars, on...
Alors, c'est un... Je me joue l'avocat du diable. Est-ce que vous avez peur que la saison... Parce que c'est un petit peu ce que vivent certains supporters. Est-ce que vous avez peur que cette année soit la saison au final en trop et que ça fait quand même 3 ans que les joueurs qui devraient partir, qui ont plus trop d'envie à jouer sur le terrain, sont là. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit la saison de trop et que la magie opère pas une quatrième année de suite en réussissant à garder Bordeaux haut, parce qu'on a quand même eu un club deux fois européen, 7e, une Coupe de France, une 5e place. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'échouer?
Si demain on dit on va échouer, on arrête tout. Non, on est conscient de la chose, on est conscient de l'effectif que nous avons. On est conscient que peut-être aussi il y a une usure au niveau des joueurs parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, mais ça c'est comme une entreprise. Si on ne renouvelle pas à un moment donné, on est dans la routine, hein, on est dans un rituel, traîne, tranquille. Non. Là, pour l'instant, la question qui se pose, c'est il faut qu'on arrive à retransmettre aux joueurs une certaine envie de retrouver le plaisir sur le terrain. Voilà, trouver un bloc, trouver une envie d'aller de l'avant, reprendre confiance en soi. Il suffit de peu de choses. On n'est pas détaché au classement. On a juste une prise de conscience à l'heure actuelle qu'on n'a pas fait de bons résultats depuis la reprise du championnat. Voilà, donc il faut se remettre au travail. Et il faut prendre conscience que les matchs qui arrivent sont des matchs très importants. Et c'est maintenant qu'il va falloir faire réagir les joueurs. Voilà.
Alors, oui, Aymeric.
Moi, j'aurais plus que des questions, des réactions par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. La première, c'est un petit truc qui m'a fait tiquer. Quand on vous parlait du bricolage, vous disiez... Francis Hull a une ligne de conduite et après il essaie de s'adapter en fonction des formes de chacun et des besoins de l'équipe sur le moment. Mais la ligne de conduite de Francis Gillo et de vous tous, je suppose, dans le projet de jeu que vous vouliez et que vous voulez toujours, je pense, dicter aux Girondins, quelle est-elle?
Quelle est-elle? Elle est compliquée parce que
le
projet de jeu.
Je pose des questions toutes bêtes volontairement parce que questions qu'on se pose
quand
tous.
Quand vous avez une équipe type qui se dégage, là on peut déjà préparer un projet de jeu. Quand vous avez une équipe où il y a des blessés en permanence, vous avez des garçons comme Faubert, des garçons comme Certic. Vous avez à l'heure actuelle, regardez, vous avez Certic, il est blessé, il revient. Vous avez que Nguemo et Poco en milieu de terrain. Il faut prier. Hein. Donc après, quand on fait du rafistolage, ça veut dire faire monter Faubert d'un cran pour renforcer un peu le milieu. Mmh. Il y a tout ça. Donc on est bloqué quelque part. Alors chaque fois qu'on veut arrêter quelque chose pour se dire ça y est, on a le projet de jeu dans l'équipe comme celle-là.
Qui se blesse, qui est en sélection.
Donc on est toujours. Voilà. Et ensuite, il y en a 10 qui partent autant en sélection. C'est hyper compliqué. Pour l'instant, on ne peut pas dire, même si on avance, on a un projet de jeu, mais pour avoir le projet de jeu, il faut avoir l'effectif type en place.
Et la deuxième petite réaction que j'avais sur une des choses que vous avez dites, c'est quand vous parliez, alors moi je suis tout à fait d'accord, je l'ai écrit sur plein de sites par-ci, je le dis souvent cette antenne, c'est l'animation qui prime sur le système, ça je suis entièrement d'accord, mais il y a quand même une phrase qui est sortie, je crois, de la bouche de Franck et qui m'a fait un peu tiquer, oui. C'est quand vous avez dit on adapte le système, on le choisit en fonction de l'adversaire. Alors je suis pas un idéaliste à penser forcément que Bordeaux doit être un rouleau compresseur qui doit imposer son jeu à tout adversaire, mais ça m'a fait un peu tiquer quand même de savoir que Bordeaux on s'adaptait à l'adversaire avant d'essayer de s'imposer.
Franck, du coup, peut-être Franck pour la réponse.
Après, oui, c'est l'animation qui prime, ça moi je suis d'accord, mais la phrase m'a peut-être fait un peu. Alors qu'est-ce qu'elle était mal formulée? Je cherche la petite bête volontairement, on est aussi là pour ça.
Non, mais vous avez raison, je vais m'expliquer. C'est vrai que la composition d'équipe, elle varie en fonction des qualités des uns et des autres. Après, votre équipe, vous l'animez en fonction de vos principes de jeu. Principes de jeu en fonction de vos qualités, en fonction de ce que souhaite l'entraîneur. Ça, c'est important. Après, il est indéniable qu'on doit prendre en ligne de compte l'adversaire. L'adversaire, pas d'une façon générale, mais peut-être sur si une équipe joue à 5 derrière, attention, s'il faut passer plus sur le côté droit, plus sous le côté gauche, oui, par moment, on est obligé de faire attention et donner les caractéristiques de l'équipe adverse. Maintenant, faire une composition, et là, Alain ne me contredira pas, faire une composition d'équipe en fonction, tour rien qu'en fonction des qualités et défauts enfin, surtout des qualités d'adversaire, ça je l'ai pas encore vu sous l'ère Francis Gillot.
Cyril,
on va prendre un petit point positif quand même. Il y a un garçon qui commence un petit peu à s'imposer, c'est Maxime Pungé. Il a d'ailleurs été cité par Gillot comme exemple parce que c'était un gamin qui venait s'entraîner souvent le matin et qu'il arrivait très tôt. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de joueurs qui viennent essayer de se renforcer individuellement pour apporter au groupe?
Des anecdotes comme ça sur des joueurs en particulier?
Bon, Maxime, moi ce que je dirais, c'est qu'il a tout compris du métier de footballeur professionnel. C'est pas arrivé quand on donne rendez-vous aux joueurs à 9h15, arrivé à 9h14 ou à 9h15. C'est-à-dire qu'il arrive à trois quarts d'heure avant l'entraînement, il fait des abdos, il s'étire, il discute, il lit la presse, il est en train de s'échauffer tranquillement. C'est vrai que ben, on a quelques joueurs comme ça et de plus en plus qui viennent de bonne heure et c'est du temps de gagner. Mais par contre, vous avez certains joueurs qui arrivent à l'heure mais qui restent assez tard après l'entraînement. Ça fait partie de la conscience professionnelle. Voilà, déjà arrivé à l'heure, ça c'est la moindre des choses. Ça crée une émulation pour le groupe. Et puis c'est des minutes, c'est des heures en plus. Et puis quand on est sportif de haut niveau, on doit s'astreindre.
Et donc il y a d'autres joueurs qui sont comme lui.
Oui. Et là-dessus il y a pas de souci.
Peut avoir du 36 joueurs. D'accord. Bon.
Voilà. Il va pas décerner les bons
élèves.
Sinon ils vont prendre le melon.
Je vais dire une chose. Ce qui se passe dans le vestiaire, c'est...
Oui, ça reste au vestiaire. On a bien compris ça. Non, mais c'est juste que vu que Francis Gillot avait cité Maxime Pungé, est-ce que vous aviez, vous aussi, envie de vanter les mérites d'un autre, le remercier pour son professionnalisme?
Je l'ai remercié.
Je
ne pas remercier un joueur parce que vous
savez, merci Abdou.
Vous savez, un ouvrier qui arrive, qui se lève à 5h le matin, son patron qui travaille à la chaîne, il va pas le féliciter pour lui dire qu'il arrive à l'heure et qu'il va faire 8h à la chaîne. Non, c'est pas ça.
Juste, oui, deux petites secondes. J'ai l'impression, je sais pas si les autres seront d'accord avec moi, qu'il y a pas un ou plusieurs leaders dans cette équipe, je parle que ça soit un.
Oui, on a déjà répondu à ça.
Oui. Je n'ai pas été là alors. Pardon.
Politique,
excusez-moi.
Messieurs, on va zapper du coup celle-là. Bah, juste politique et rapport avec la direction. On va entamer, messieurs, ça. Alors, ça a l'air de vous enchanter.
C'est le côté le moins poétique de la chose.
Alors donc, on va parler. Donc Jean-Louis Tri nous a dit qu'il n'y avait pas d'objectif pour cette saison en particulier. On va vous demander une confession, messieurs.
Sur 20 minutes, il a parlé entre la 6e et la 3e place.
Ouais. Donc,
6e et 3e place. Moi, je vous souhaite du courage.
Hein. Bon, 3 et 6. Alors, messieurs...
La prime de fin d'année. Allez, bonne chance.
Jouer au loto, si ça arrive.
Est-ce que vous, Francis Gillot, vous avez fixé un objectif de place dans ce championnat? Et je vais même aller plus loin, parce que donc on pose ça évidemment par rapport aux contraintes économiques que vit le club. Comment est-ce que vous le vivez ça au quotidien? Est-ce que c'est pas, très dur justement de voir que vous avez sans doute des plein d'idées, mais que vous pouvez pas pour l'instant les mettre en place, et que ça fait quand même votre troisième année où c'est pas possible ça?
Bah écoutez, on fait avec, hein. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Quand on a du matos, eh bien, ça nous permet de bosser dans les meilleures conditions. Quand on fait avec les moyens que l'on nous donne, eh bien, on fait avec, hein. Faut pas non plus tirer sur l'ambulance. Bon, c'est clair, moi je personnellement, si on finit les 10 premiers, ce sera une bonne chose, on fera une bonne saison. L'année dernière, on a fini 7e, l'année d'avant, on a fini 5e. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve le plaisir du terrain, le plaisir du jeu. Après qu'on donne de l'envie, je suis un peu rabat-joie, mais c'est retrouver cet état d'esprit qui nous anime, même avec l'effectif que nous avons, pour pouvoir faire une saison avec du plaisir pour tout le monde. Et quand le président dit qu'il n'y a pas de place proprement dite au classement, moi je dis que si on peut terminer le plus haut possible, c'est bien, et on fera le maximum pour finir le plus haut possible.
Et voilà. Alors, donc, une petite question qui va en rapport avec ça. Vous savez, les supporters parlent beaucoup d'une chose, et la presse en général, une chose qui à mon avis n'existe pas des masses au final, c'est les fameuses garanties sportives que vous avez au moment de signer un contrat. avec donc la fameuse pression que l'entraîneur pourrait mettre sur son président au moment de faire la signature en disant « Ah, je veux bien prolonger, mais je veux telle ou telle chose ». Est-ce que sincèrement, vous avez eu des garanties?
Non, mais c'est très compliqué. On connaît la situation du club, il ne faut pas être dupe non plus. Francis ne va pas mettre le pétard à la tête du président en disant « Bon, je signe, mais moi, il me faut
Messi,
Ronaldo ». Non, il ne faut pas quand même déconner. Non, le président a annoncé la couleur. Il a dit que cette année, le club allait être encore en difficulté financière, donc qu'il y avait encore une année de galère, qu'après, on préparerait l'avenir par la suite. Voilà.
Marc, une question du chat.
Oui, enfin, c'est pas forcément une question du chat, mais je vois l'agacement sur le chat. On va dire que on le vit côté supporter depuis un moment. Quand vous dites finir dans les 10 premiers, ça sera bien, ça passe pas aux côtés des supporters.
Oui, mais attendez, il faut se faire aussi une raison aux choses. Ça passe pas. Regardez Lyon. Lyon, s'ils s'arrêtent pas sur la génération Gonalon, etc., Lyon, ils ont été 7 années d'affilée en haut de l'affiche. Et puis, à un moment donné, il faut que les clubs ils soufflent un peu. Un club ne peut pas être éternellement pendant 15 ans en haut de l'affiche. Alors, c'est pas possible, je comprends pas. Ou alors, c'est le Barça et on peut se permettre, ou le Real de Madrid. Mais bon, Bordeaux, ça veut dire que Bordeaux, il y a une page qui se tourne. Il faut en prendre conscience de ça. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Il va falloir préparer une nouvelle génération pour pouvoir derrière repartir sur 10 prochaines années. Mais un club, à un moment donné, ça s'essouffle. C'est logique quelque part. Ou alors, c'est que le club n'a jamais été en difficulté financière, qu'on a pu toujours, un départ, prendre derrière un joueur de qualité, ce qui n'a pas pu se faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on tombe dans un cul-de-sac, et il y a des joueurs, comme Lyon, il y a des joueurs qui sont restés pas mal de temps au club, qui faisaient la différence sur des coups de pied arrêtés, etc. Ces joueurs-là n'y sont plus, et bien le club a subi des conséquences maintenant, parce qu'ils n'ont pas préparé cet avenir-là. Et c'est des jeunes comme Grenier, comme Gonalon qui arrivent, qui commencent à prendre de la bouteille, je trouve, à l'âge qu'ils ont, mais peut-être que ça ne pèse pas assez encore pour un club comme Lyon. Et nous, il faut se rendre compte aussi que maintenant, il faut préparer le club dans un avenir très court, mais un avenir pour aller de l'avant.
Une petite remarque, un petit rebondissement, on va dire. Tout à l'heure, tu as dit que c'était finir dans les 10 premiers serait déjà une très bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Bordeaux, c'est un objectif élevé de finir 10e, par exemple. C'est-à-dire que Bordeaux vous un petit peu. Ma question, elle n'est pas tellement sur. Ma question, c'est de savoir justement quel est le niveau aujourd'hui de Bordeaux par rapport aux autres. C'est-à-dire que Bordeaux, concrètement, est une équipe de niveau ventre mou un peu aujourd'hui.
Est-ce qu'on a les moyens pour finir d'être premier?
Non, sincèrement non.
Donc, non, entre la 3e et la 10e, il y a 7 places. Donc, est-ce qu'on est plus proche de la 5 ou plus proche de la 10?
Attention.
Après, ça pourrait être vraiment qu'on peut finir 5e ou 6e. Non, mais je vous demande, est-ce qu'on est plus proche de la 5 que de la 10?
On parle ce soir, mais tout peut arriver. Même avec une équipe moyenne, tout peut arriver. Après,
oui, en France, en plus, il y a des exemples.
Regardez Nice l'année dernière.
Bah, moi, je me rappelle de Nancy, il y a 4-5 ans, qui a fait 4e et qui a été 3e pendant 35 journées. Oui, aujourd'hui,
et Bordeaux, deux, et comme Bordeaux 17, la première saison, ils l'ont fait une
année. Non, mais après, il faut remettre les choses à leur place. Il y a des équipes à l'heure actuelle comme Monaco, avec un gros potentiel, une grosse machine, avec un effectif peut-être 35 joueurs. On a une équipe comme Paris, avec 35 joueurs aussi. On a une équipe comme Saint-Etienne, comme encore, je le dis, et ils seront là. Il y a Marseille, il y a Lille. Voilà. Et nous, je pense qu'on peut prétendre à être entre la 5e et la 10e place, parce qu'on peut se jouer comme des clubs comme Montpellier, comme Toulouse, et bien d'autres. Donc je veux dire, voilà, on peut être 6e, on peut être 7e, on peut être 8e. Mais moi, je pense que c'est bien de finir dans les 10 premiers. Mais je ne veux pas le dire entre la première et la 5e.
Mais c'est ce que vous pensez vraiment, ou c'est ce qu'on vous a demandé
Franck voulait réagir, donc Franck.
Non. Moi, je vous rappelle simplement, c'est qu'il y a 2 ans, au mois d'octobre, on était relégable à la même période. Donc, on va dire, on a sensiblement le même effectif. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être c'est au pied du mur que les joueurs vont prendre conscience qu'il faut davantage de concentration, de vigilance, de chercher toujours à progresser, de travailler encore plus, parce que je pense qu'on travaille bien maintenant. Ça dépend aussi de la qualité de l'effectif que vous avez, c'est une évidence. Le jugement, je pense qu'on est à la 5e journée de championnat. Je pense qu'on aura vraiment une idée de nos performances pour l'avenir lors de la 10e journée. Donc il faut être un petit peu patient, mais il ne faut pas être désespéré non plus, parce que sinon sans ça, on arrête tout. Non, il faut être encore concentrer et encore plus.
Cyril va vous commencer à vous parler des jeunes dans quelques instants. Juste avant, est-ce que vous avez, c'est une chose qu'on énonce beaucoup, vous parliez tout à l'heure d'une équipe compétitive pour le nouveau stade. Vous, votre objectif à vous, personnellement, aujourd'hui, c'est, alors on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est d'emmener cette équipe-là dans le nouveau stade.
Mais écoutez, nous, on va s'arrêter juste avant le nouveau stade, donc on va tout faire pour amener une bonne équipe au nouveau stade, bien. C'est certain.
J'en demande pas plus. Les jeunes, du coup, Cyril, tu voulais entamer.
Alors, les cas, enfin, il y a plusieurs jeunes qui sont arrivés là ces dernières années venant d'Afrique. Alors, il y a Jigla, il y a Poco. Récemment, il y a eu le petit Ali Mohamed qui est venu en essai. Et Samuel Alagbé, un gardien aussi qui est... Saturnin Alagbé, pardon, est venu à Bordeaux. Comment est arrivée cette filière africaine? Est-ce que vous avez... Alain Giresse, gardien 3, on entend beaucoup de choses dans la presse. Est-ce que c'est un filon à creuser?
Bah, comme le fonctionnement du club dépend de la cellule de recrutement, donc avec tous les intermédiaires, tous les connaissances, notamment bien sûr Alain Giresse et Ganotror, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus, donc le procédé c'est qu'ils aillent d'abord avec Patrick Battiston avec la CFA pour voir pendant une semaine ce qu'ils valent vraiment, et puis ensuite les intégrer s'ils ont vraiment le niveau avec nous, avec les professionnels, et après tout de suite on sait leur profil et on voit s'ils ont les qualités ou pas.
D'ailleurs, un mot sur Jigla, il fait partie de la liste
de l'Europa League.
L'Europa League. Donc,
Alain, pourquoi ce choix de Jigla sur la liste de l'Europa League?
Ben, parce que Plasil est parti, il fallait compléter la liste et Jigla a signé un contrat professionnel, donc il est rentré sur la liste de l'Europa League. C'est parce qu'il fallait la compléter. Donc voilà.
Très simple. Vous avez été consulté dans le choix de le faire signer pro, ou c'est vraiment Battiston et le club qui ont pris la décision?
C'est le recrutement et le président.
Ok. Ouais. Ah ben, comme quoi, j'ai envie de trio prendre des décisions aussi.
Non, mais après, c'est un joueur qu'on a vu à l'essai la saison dernière qui nous a surpris un petit peu d'aller jouer lui avec nous. C'est un garçon qui vient de faire 18 ans, donc je veux dire, qu'est-ce qu'on risque pour faire signer un garçon avec du potentiel maintenant à lui de... Voilà. Nous, on le verra dans les entraînements par la suite, mais c'est un garçon d'avenir. Comme disait Franck tout à l'heure, il faut être patient avec les jeunes, ça peut aller très vite comme ça peut prendre du temps. Mais bon, pourquoi pas, moi je... Enfin, nous, on l'avait vu, avec Francis et tout le staff, on avait dit que ce garçon avait du potentiel. Après, la proposition du contrat, c'est pas nous qui l'avons dit. On avait dit que ce joueur avait des qualités. Et après, c'est le club qui a décidé de faire signer 3 ans professionnels. Voilà.
Thibaut, je crois, sur les pros qui descendent en CFA.
Alors, justement, on a beaucoup vu en ce début de saison des professionnels qui descendaient en CFA. Comment on décide, en fait, comment ça s'articule entre les nécessités du groupe professionnel pour maintenir des joueurs en rythme et concilier en fait ces professionnels avec les exigences aussi pour les jeunes, parce que si un jeune reste sur le banc, il ne progresse pas. Donc comment ça s'organise? Y a-t-il des consignes sur les temps de jeu pour les pros? Est-ce que vous imposez à Patrick Battiston d'utiliser certains professionnels 60 minutes, une mi-temps ou tout un match? Et selon vous, est-ce que cela ne pénalise pas la progression des jeunes joueurs?
Alors la concertation, elle se fait en l'approche des matchs de l'équipe première, c'est-à-dire qui est-ce qu'on utilise dans l'effectif, et les joueurs qui ne jouent pas donc sont à la disposition de Patrick Battiston. Moi je sers de relais avec Alain pour donc communiquer les joueurs qui redescendent, indiquer Patrick Battiston nous demande aussi toujours à quel poste et quel est le temps de jeu, on doit le raccorder. Là, l'image de Certic qu'a joué samedi en CFA, était prévu qu'il joue une heure, mais que si ça allait bien, il pouvait finir tout le match. Donc oui, il y a une concertation. Après, bien sûr, il y a un retour. Nous, on y va dès que l'on peut, on va avoir tous les matchs. Et puis donc après on regarde les choses et puis on fait une analyse avec Patrick Battiston le lundi dès le lendemain du match.
J'avais juste une question complémentaire sur les gardiens, puisque j'en profite. Comment s'organise la rotation entre Kevin Olympa, Asbe Youg, Jean Prior en CFA?
Et qui décide aussi de
qui va jouer et qui est deuxième gardien, etc. Est-ce qu'il y a une rotation comme on a pu voir la saison dernière entre Olympa les matchs à domicile ou Keita les matchs à l'extérieur, ce qui était un peu ce qu'on voyait, voilà. Ou l'inverse.
Et peut-être quel gardien est le plus proche de la doublure de Cédric Carasso?
Oui, ça fait beaucoup de questions là.
Oui, non,
on en a vu. C'était la question d'après, tu vois. Mais...
D'accord. Donc on va commencer par la première.
Oui, oui, donc tout à fait.
La rotation, elle s'effectue. Bon, le plus important, comme je l'ai déjà dit, pour le gardien de but, c'est le temps de jeu. Mm-hmm. Qui plus est qu'un gardien de but est jeune, il doit jouer. Si bien en 15 ans, 17 ans, jusqu'en CFA. Et c'est important pour le deuxième gardien, voire le troisième gardien. Là, on a fait jouer il y a 10 jours Kevin Lampa contre Villeneuve, parce qu'on savait que derrière, on allait enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et peut-être qu'on ne sait jamais si on a besoin de lui et une blessure ou une méforme ou un coup de fatigue de Cédric, ce serait important qu'il joue. Après, HB, Hugues et Prieur, on essaye d'alterner deux matchs, un match à domicile, un match à l'extérieur, pour que l'un et l'autre puissent jouer et un temps de jeu. Prieur a cette faculté, c'est qu'il peut jouer encore en U19. Mmh. Donc là, ce week-end, HB a joué en CFA et Prieur a joué en U19.
D'accord. Voilà. Et donc pour la relève de Cédric Carasso, est-ce qu'il y a... c'est trop tôt peut-être pour le dire déjà.
Là, il est un peu trop tôt déjà.
Il n'y a pas de relève, c'est Cédric. Voilà. voilà.
Non, mais il y a notamment une question peut-être sur le banc l'an prochain. Alors bon, tout à l'heure on parlait des contrats qui arrivaient à échéance. C'est le choix est peut-être encore un peu.
Voilà. Comme je vous l'ai dit pour l'équipe tout à l'heure, pour savoir un petit peu la projection pour l'équipe, c'est une dizaine de jours. Le projet qu'on a mis en place, que j'ai proposé aussi à HBU, c'est effectivement, on en saura plus au mois de décembre, parce qu'il vient de la CFA. Moi, comme je dis, avec les jeunes, il faut être patient, il faut être exigeant, ça c'est certain. Mais il faut être patient, donc au mois de décembre, on fera un point pour savoir si effectivement il a le niveau pour être deuxième, voire même être troisième gardien l'année prochaine. Et puis ensuite, voir la progression de Prieur au niveau de U19 et de la CFA.
Alors, on a parlé juste avant donc des professionnels qui descendaient en CFA. Je vais maintenant parler des jeunes qui montent avec les pros, puisqu'il y a des contrats un peu spéciaux qui ont été signés aux Girondins ces dernières années. Un contrat qui concerne notamment Loli Castro, Gaëtan Laborde, qui a été prêté donc cette année au Red Star. Bon, Jigla est un néo-pro, on va dire, qui n'est pas vraiment dans leur KE, mais c'est en gros des contrats pour les jeunes qui disent généralement 2 ans de fin de formation en CFA et après un contrat professionnel assuré. Non, c'est pas le cas.
Assuré, oui, tout dépend après de la formation. S'il faut une bonne formation, ça peut déboucher sur un contrat professionnel.
Parce que Loli Castro, par exemple, on a entendu dire qu'il était passé professionnel cette année.
Oui, je crois qu'il est enregistré. Il me semble qu'il est enregistré.
Il est enregistré. Il est sur la page effective.
Ouais, il est sur la page. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas, je sais pas, mais il est en phase. Ouais.
D'accord, parce que c'est une chose.
Alors, si Giga est passé sur la liste UEFA, je pense que Castro, c'est en cours. C'est parce que autrement, ouais. Castro serait passé déjà prioritaire, je pense.
Et donc, alors du coup, est-ce que ces jeunes-là, alors, la question qu'on a envie de vous poser par rapport à ça, est-ce qu'on a du mal, en fait, les supporters ont du mal à comprendre ce genre de contrat, parce que concrètement, quand on regarde les deux dernières saisons de Loli Castro, c'est beaucoup de blessures, assez peu de temps de jeu au final, et donc on se dit que ce garçon qui passe professionnel maintenant, est-ce que finalement, cet avenir professionnel déjà préparé, est déjà, on va dire, envisagé, est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu... embarrassant quand on se rend compte finalement au bout de 2 ans qu'on a un joueur qui a 3 ans du coup de contrat et qui n'était pas au niveau.
Écoutez, moi sur le cas de Castro, c'était pas évoqué pour l'instant que Castro vienne dans le groupe pro. Il a encore son apprentissage à faire à CFA, oui. D'accord. Ensuite, bon, quand il y a une décision qui est prise comme ça avec au niveau du centre formation et que le président dit ça vaut le coup peut-être de le faire signer pro, ça veut dire qu'il y a aussi un projet derrière de dire que ces joueurs-là peuvent être prêtés. Parce que ouais. ça fait partie aussi de l'apprentissage d'un jeune. Hein. Comme on le redit encore une fois, ils évoluent chacun à leur rythme, même en étant rigoureux envers eux dans le travail. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais Castro, pour l'instant, c'est un garçon, comme vous le disiez, qui a eu pas mal de pépins. Et puis on verra quel est son avenir en fonction de cette saison.
D'accord.
Cyril. Deux questions totalement différentes, mais alors... La Gambardella, alors c'est une chance de l'avoir gagné. Moi j'ai remarqué que Rennes, quand ils l'ont gagné, plusieurs jeunes sont sortis dans les 6-8 mois qui ont suivi. Je pense à Catherine, je pense à Mvilla, je pense à Mavinga et tout ça. Sochaux, quand ils l'ont gagné, aussi énormément de jeunes qui sont sortis, Nice, etc. Bordeaux, le fait qu'il y ait beaucoup de contrats, est-ce qu'il n'y a pas un palier justement avec l'entraînement? Est-ce que avant de passer pro, est-ce que les joueurs, je pense à Kabouni, je pense à Dalmeida, Prior, etc. Est-ce qu'ils ne doivent pas s'entraîner plus quotidiennement avec les pros ?
Ou est-ce que c'est bon, vraiment... s'entraîner avec les pros est une chose, mais il faut le mériter de venir avec les pros. Si je prends la génération de Sochaux, je suis bien placé pour en parler, puisqu'on a eu cette génération, nous, quand on est arrivé à Sochaux, mais ils avaient gagné la Gambardella 2 ans avant. Donc ils sont arrivés 2 ans après les Martins, les Boudebouze, etc. Voilà. Donc ils ont mis quand même 2 ans pour arriver dans le groupe pro.
C'était 2 ans après.
Après, il y a aussi cette maturité. La Gambardella est une chose parce que c'est gagner la Coupe Gambardella de leur catégorie d'âge, donc ça c'est important. Mais après, franchir le palier de l'élitisme au niveau de la première division, le palier est costaud. Il faut aussi
déjà
avoir
la CFA.
Alors, il y a le culot, certes, il y a le culot, mais il y a aussi cette, avoir une grosse maturité d'âge déjà. Voilà, franchir ce cap-là par le travail, par l'envie. Parce que les jeunes qui sortent, qui gagnent à Gambardella, souvent ils ont un peu le teston qui gonfle vite parce que ça y est, ils pensent que c'est acquis. Mais le plus dur reste à faire, c'est-à-dire maintenant c'est franchir l'étape supérieure. Il y a très peu qui passent, mais les 3 noms que vous avez évoqués, donc Abouni, etc. Ouais, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ils sont déjà venus s'entraîner avec nous. On les voit. C'est des garçons qui à l'entraînement mettent le pied. Par contre, sur le match qu'on a vu en CFA samedi, ben là ils ont eu peur de l'adversaire. Donc c'est des garçons que déjà s'ils mettent pas le pied en CFA, je vois pas comment ils peuvent le mettre en Ligue 1. Mais encore une fois, il va falloir être exigeant envers eux en leur disant qu'ils ont un potentiel à développer, un potentiel à mettre en avant. Et nous, on attend que ça. Voilà, on attend que ça parce que ces garçons-là. On est toujours en relation avec Patrick Battiston, qui nous tient au courant aussi de l'évolution de ces jeunes. Dès qu'on a un manque aussi à l'entraînement, on sait qui on fait venir, on appelle Patrick, lui mérite de venir, etc. Il y a le mérite aussi, et il faut qu'il vienne par le mérite dans le groupe pro. Il ne faut pas dire parce que c'est Kabouni, il doit venir Kabouni. Non, mais c'est bien pour résumer ça, parce que c'est important de savoir comment ça se passe. Donc il faut qu'il mérite de venir dans le groupe pro. Voilà.
Franck avait juste quelque chose à ajouter.
Quand on est sportif de haut niveau, ce qui prime avant tout, c'est la régularité dans la performance. Or, à cet âge-là, effectivement, par moments, on a le sentiment qu'ils font un match, 2 matchs bien, et après, ensuite, c'est moins bien. Alors, quand je pense qu'ils auront atteint cette régularité, ils auront franchi un palier et pourront venir avec nous d'une façon un petit peu plus suivie et régulière.
Cyril.
Alors deuxième, j'ai une autre question sur le Proyecto Crecer en fait. C'est le centre de formation qui est en Argentine. Apparemment c'est Franck qui est un peu plus calé. Le Proyecto est redescendu en régional, au niveau régional. Est-ce que le club des Girondins n'a pas intérêt, par exemple, vu que des difficultés de faire venir les Argentins, on a vu le Cavada. Est-ce que les Girondins n'auraient pas intérêt à créer une petite association ou un petit arrangement avec un club de division 2, voire de division 1, bas de division 1 argentine pour faire éclore les talents et après faciliter leur venue et qu'ils aient un niveau qui soit un peu plus proche de ce que demande Bordeaux. Je pense notamment, parce qu'on a parlé de Vada la dernière fois, il y a le petit Merguen qui est international U16 argentin qui est au centre de formation. Il y a le Mancini, Daniel Mancini aussi, qui est très doué, qui est très courtisé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cap à faire passer avant de les faire venir à Bordeaux ? Et justement éviter les 2 ans qu'a vécu Valentin Vada, 2 ans sans compétition.
Les 2 ans de non-compétition à Vada étaient effectivement dû à un problème de législation et juridique. Le but de cette école... en Argentine, c'est effectivement c'est de faire venir de jeunes talents. Maintenant, moi, je ne connais pas trop les tenants et les aboutissants de la politique des Girondins par rapport à cette structure qui existe là-bas. Je sais qu'ils accordent de l'importance. Je sais que Pierre Espanol et Yannick Stopira ont passé 10 jours au mois de juillet là-bas. C'est vrai que c'est un choix, c'est une politique faite par les dirigeants. J'attends toujours un gardien venant de là-bas, donc j'en ai toujours pas venu, donc je vois pas l'utilité.
Il y en avait eu un il y a 3 ans qui était venu en période
d'essai. Comme ils viennent à chaque fois, ils sont une quinzaine à venir. Donc j'ai pas vu encore de gardien, donc je me prononcerai pas.
Eh bien écoute, c'est noté.
Petit gardien argentin, petit 2020 là qui arrive.
Pourquoi petit ?
Non mais petit façon de parler, parce que quand ils arrivent ils sont jeunes. Mais il faut qu'ils soient grands par la taille et par le talent si possible.
Vous êtes tous les deux des formateurs messieurs, et on a entendu dire Jean-Luc Trio dans une interview qu'il a donnée à Gold FM qu'Alain Bénédé se chargeait aussi malgré aujourd'hui le statut dans l'équipe professionnelle, d'organiser des ateliers pour les jeunes. Alors, on aimerait savoir en quoi ça consiste exactement.
Découvre, non ?
Non, je rigole. Non,
pâte à sel, dessin, c'est... sur truc.
C'est pas mal, c'est pas mal. Non, on a mis ça en place à Sochaux, ça s'appelle de la post-formation, c'est-à-dire que les jeunes qui accèdent, qui sont en CFA et qui sont, qui viennent de signer un contrat pro. Moi, quand je dis moi, c'est parce qu'on a mis en place ça avec Patrick Battiston, en harmonie avec Francis Gillot, etc. C'est de donner du temps d'entraînement à des jeunes dans les points faibles à travailler. C'est-à-dire que je prends des garçons comme Maxime Pouge, comme Sacco. Qui c'est qui a encore.
Donc ce sont des pros ou ce sont des jeunes aussi ?
Ce sont des jeunes pros.
D'accord. Pro, parce que c'est pas l'effectif de CFA, donc c'est.
Non. Ensuite, je prends des garçons comme Kabouni, ceux qu'on a cités de la Gambardella, pour Del faire Maïda. Quand même. Pour faire. Il y a aussi Crivelli, il y a Crivelli, il y a Dabas qu'ils ont recruté, il y a
Clément
Badin aussi. Donc on est à peu près une dizaine de joueurs, ce qui nous permet de faire des ateliers intéressants. Et c'est pas question de faire une séance sur une heure, non, c'est travailler pendant 40 minutes sur un poste clé du joueur, sur ses défauts dans le jeu, pour faire les passes longues, pour faire la transversale, pour faire des centres, pour faire des reprises de volée, voilà. Et on corrige tout ça. Donc là, on va rentrer dans une période, on va jouer tous les 3 jours. Donc, quand nous ne les prenons pas, c'est nous, c'est parce que Francis est présent aux entraînements, il y a René et Franck et moi-même, parce qu'ils contrôlent aussi les ateliers. Et ça permet aussi à Francis d'avoir un œil un peu sur ces jeunes-là, comme quoi on est ouvert un peu à tout ce qui se passe. Et Patrick Battiston vient aussi voir la séance. Et quand on va enchaîner, là, comme là, une période de 6 matchs tous les 3 jours, c'est Patrick Battiston et Pierre Espagnol qui prennent, en plus de la séance d'entraînement pendant 20 minutes, des ateliers aussi pour ces jeunes-là, pour aussi leur faire la séance d'entraînement.
Juste, voilà. Il y avait Pierrot Labatte à une époque qui était... Excuse-moi, je te la pique, Thibaut, mais il y avait Pierrot Labatte à une époque qui faisait sensiblement le même travail au club aujourd'hui.
Ouais, mais Pierrot prend les plus jeunes, il fait beaucoup de travail au mur avec eux, etc., plus de technique, quoi. Oui.
Juste, Franck, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ?
Le travail de Pierrot Labatte, c'est plus un travail d'appui, de coordination sur des gestes, sur des lancers de main, sur le lancer du ballon à la main.
Parce que moi, je me souviens de la potence. Travailler.
La potence.
Je me souviens d'avoir vu faire travailler des jeunes, alors pour le coup, c'était peut-être plutôt des U15,
oui.
Face à un mur, passe-contrôle.
C'est de l'analytique. C'est des gestes très simples que l'on doit réaliser et qu'on doit apprendre. Et contre un mur, on a toujours sensiblement la même puissance, la même sensibilité. Et on doit le faire du pied droit comme du pied gauche. Et c'est un très très bon travail. Parce que là, le travail que peut proposer Alain, c'est différent.
C'est la correction.
C'est des situations de match, des passes de 20 mètres, 30 mètres. Correction, analyse. Et puis et surtout, c'est travail de qualité.
Cyril.
Alors Alain, c'est une question pour toi. Tu as été directeur du centre de préformation à Albi, Yannick Stopira aussi. Est-ce que tu as un mot à dire sur la préformation à Bordeaux ? Est-ce que tu as été consulté ou pas ? Est-ce qu'on a utilisé.
Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est que la préformation pour
les. La préformation, c'est les 10-15, je me sens.
C'est déjà d'une, c'était pas à Albi, c'était à Castelmourou à côté de Toulouse, puisque c'est pas grave, c'est un pôle espoir. Donc moi j'avais quand même la chance d'avoir l'élitisme. Qu'est-ce que c'est la préformation ? C'était déjà de recruter dans tout le Midi-Pyrénées et Aquitaine, puisqu'il n'y avait pas de pôle à l'époque à Talence. J'avais le Languedoc-Roussillon, j'avais Midi-Pyrénées et j'avais l'Aquitaine. Donc je prenais les meilleurs jeunes de 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans, qui rentraient au pôle espoir de Castelmourou. Donc j'avais à peu près un concours d'entrée de 200, voire 250 candidats, pour en prendre, à l'époque, on me laissait le choix d'en prendre entre 15 et 20 au pôle. Et après, c'est avéré que la fédération, puisqu'on était sous l'effigie de la Fédération française de football, puisque c'était mes patrons, ils ont fait après en fonction du nombre de licenciés par région. Et donc, ils ont baissé le recrutement à 11, voire 12 joueurs en fonction du nombre de licenciés de cette catégorie d'âge. Donc, ça a été après assez compliqué. Et c'est Yannick Stopira qui m'a pris ma place. Donc, c'était un travail d'élitisme, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui s'entraînaient tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après l'entraînement du vendredi, ils repartaient chez eux pour jouer en club le week-end et ils re-rentraient au Pôle Espoir le dimanche. Voilà. Donc c'était pendant 2 ans, puisque c'est des catégories d'âge de 13 ans jusqu'à 15 ans. Et les meilleurs partaient après dans les centres de formation, puisque tous les clubs pro venaient recruter les jeunes auprès de ce pôle-là, puisqu'il y avait à l'époque 11 pôles en France, maintenant il y en a un peu plus. Et ces jeunes sortaient donc du pôle espoir et signaient déjà un contrat d'aspirant pour entrer dans un club professionnel.
Voilà. Donc, vos qualités de faculté avec les jeunes au niveau de leur préformation, est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'on vous demande votre avis par rapport à la préformation à Bordeaux, comment ça s'organise au niveau du recrutement, je sais pas, Yannick, je pense un peu plus que vous.
Non, il y a Yannick Topira qui a pris un rôle important dans le recrutement chez les jeunes au Girondins de Bordeaux, qui a remplacé Philippe Goubet. Non, je crois que nous on a déjà pas mal de choses à voir avec les pros, vous avez vu ce qu'on a évoqué ce soir, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Ensuite, bon, la post-formation c'est quelque chose qui nous tenait à cœur au staff et on discutait pas mal avec Patrick Battistome. Après il fallait faire le pas, et donc ce pas on l'a mis en place, on l'a franchi. Moi je crois que c'est des choses qui sont importantes dans notre travail, ça fait partie de notre boulot, et puis c'est à nous à faire sortir aussi les jeunes et leur montrer que le métier de footballeur n'est pas un métier facile et qu'il faut assumer, mais dans la mesure où ils donnent des qualités et de l'envie, il faut leur montrer le chemin. Voilà.
Pour dernière donc question pour ce soir, parce qu'on a déjà un tout petit poil dépassé l'heure, et après Marc se chargera de conclure. Comment donc ça se passe avec les jeunes qui viennent faire le nombre entre guillemets durant les trêves internationales, notamment quand il y a des absences parmi les pros? Comment est-ce que vous les choisissez? Est-ce que c'est uniquement par rapport au poste, ou est-ce qu'il y a peut-être des vues un petit peu plus derrière? Et est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui s'entraînent de manière quasi systématique?
Tu sais qu'on en a déjà un peu parlé de ça.
Non, mais j'aimerais avoir la confirmation. Juste
sur le choix, c'est Franck qui appelle Patrick pour une demande de joueurs en fonction des postes de Francis, s'il veut faire une petite opposition, etc. Et puis après, il y a Patrick Battiston qui envoie ceux qui méritent de venir en fonction du match qui s'est passé le week-end.
Ouais. C'est quand même une sélection, quoi.
Ouais, non, mais parce que la sélection, elle est que faut pas ouvrir la porte à un jeune qui fout rien par rapport à un autre. Je crois que c'est au méritant, et ça, c'est, il faut rester aussi dans cet esprit-là, quoi. Voilà.
D'accord. Marc, tu vous 30 secondes, Cyril.
Sur Barbet et Gostis Béret, vous avez été, et Farasman, vous avez été consulté ou pas sur leur prolongation pour la CFA ou pas? Ou pas du tout?
D'après ce que l'on a compris, il y avait des manques défensivement à la CFA. Il fallait aussi créer un effectif pour tenir le championnat. Et comme il y avait très peu de défenseurs, je crois que ces garçons-là étaient sollicités pour rester. Ils ont voulu rester aussi, donc c'est bien. Après, ça peut les faire travailler un an de plus. Bon, puis je pense que c'est des garçons qui ont une bonne mentalité. Il faut aussi en tenir compte, et je trouve que c'est bien. C'est bien pour eux. C'est des garçons qui... Ils jouent avec leurs moyens, mais ils sont toujours présents, même quand ils viennent avec nous, je trouve que c'est bien. Franck en rêve-toi un peu.
Oui, en plus, ce sont des garçons qui ont une excellente mentalité. Et puis, ça peut pour Patrick Battiston, ce sont des joueurs qui composent un effectif de qualité. Et surtout, ils sont un petit peu plus vieux que les autres, donc ils ont un rôle de leader.
Plus de métier.
À travers
des cadres
saisons.
De 22 ans.
Non. Pourquoi on peut être leader? Il n'y a pas d'âge pour être leader. Hein. Vous savez,
c'est dans l'attitude, oui.
Il y a des leaders naturels et qui se dégagent quand. Tout à fait, Zidane, c'était pas forcément un grand leader en dehors, mais un super leader sur le terrain.
Marc, tu voulais conclure? Alors, on va arrêter là pour les questions, messieurs. Déjà, moi je tiens à vous remercier sincèrement. Je pense que tous les gens là autour se font l'écho avec moi. Et cette fois-ci, la dernière fois, on vous avait fait chanter, on vous avait fait tout ça. On n'a pas préparé de piège cette fois-ci. On se souvient d'une voix d'Alain exceptionnelle.
On monte dans le standing, hein, parce qu'après, au-dessus, c'est le coach et le président.
Non, j'avais juste une dernière question qui m'a été posée sur Twitter juste avant. Voilà. Bon, elle est un peu.
Est-ce que vous soutenez le bijoutier de Nice?
Allez. Elle est un peu. Bon, voilà, je vous la pose quand même. Si demain le M6 ouvre le portefeuille en disant voilà, vous avez 50 millions pour recruter, quel joueur en particulier, ou quel profil aimeriez-vous voir débarquer au Girondins en priorité?
Alors ça, c'est M6 Qatari qui recrute.
Voilà, c'est ça. D'accord. C'est M6 qui a été racheté, non pas par les Allemands, mais par le Qatar.
Je pense que Francis déjà mettrait l'accent sur Messi, si on peut l'avoir, parce que
non, mais un joueur, non, mais sans aller
c'est
dans
200 millions d'euros.
Sans aller dans l'extrême, mais un joueur, par exemple, un profil qui vous manque aujourd'hui au Girondins.
Sans parler de joueurs.
Elle est un peu compliquée la question.
C'est compliqué parce que l'idéal, c'est de prendre un joueur par ligne. Voilà, si demain on a un budget, je prendrai une épine dorsale et je prendrai un joueur par ligne. Voilà.
C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Laurent Blanc quand il est arrivé à Bordeaux.
Bah ouais, c'est important.
Marc, pour aujourd'hui, l'épine dorsale des Girondins à l'heure actuelle, c'est, je vais vous en faire une en tant que supporter, ce serait même peut-être un Henrique, Certic Poco,
Sané.
Oui, Carasso dans les buts, bien sûr, Henrique et Sané, Certic Poco et devant Diabaté à l'heure actuelle, c'est peut-être ça. Peut-être Aubragnac aussi.
Bah c'est ceux qui tournent le plus. Hein.
Bah oui, comme par hasard, il n'y a pas de. Voilà. En plus c'est l'axe. Ouais,
c'est une petite déviation avant.
C'est un peu de
pas
mal.
Attention à la scoliose.
Marc, Marc voulait conclure. S'il te plaît, Marc, je te laisse la parole.
Oui, alors.
Pas de vanne, Marc.
Non, c'est tout qui ressemble à celle de Thierry Moreau, pour ceux qui connaissent, donc on va éviter.
J'ai rien compris à sa blague.
Comment il s'appelle ?
Thierry Moreau, mais faut
dire. Bon, messieurs, messieurs, si vous
connaissez ces joueurs, ça.
Il y avait Christophe Moreau, c'est un cycliste.
Ah non, mais j'ai joué, moi, avec Thierry Moreau, donc. Tout à fait. Ah oui, je joue au Havre avec lui. Thierry Moreau. Bon, pardon, c'est une parenthèse.
Non, déjà pour répondre un petit peu à ce qui s'est dit sur le chat, on a abordé quasiment tous les sujets ce soir, que ce soit les jeunes, que ce soit la direction, le recrutement, etc. Sachant pertinemment que c'est pas vous qui aviez les mains libres pour faire ce que vous vouliez dans le club. Donc on a beaucoup demandé, voilà, on a beaucoup demandé vos avis. Cependant, sur le chat, c'est souvent pris comptant. On l'a dit, on a quasiment commencé l'émission là-dessus et on en parlera prochainement dans d'autres émissions parce que donc c'est la problématique à l'heure actuelle, c'est aussi la réaction des supporters, que ça soit entre eux. On l'a vu avec des ultramarines qui ont chanté le stade.
Et une pratique sexuelle.
Voilà, il y a une partie sexuelle. On voit qu'il y a une cassure entre les supporters. Ce soir, Franck, tu as pu suivre le chat. Tu as vu que voilà, les supporters sont vraiment mécontents. Donc deux questions. La première à Franck Manteau. Toi qui as lu ce qui s'est dit, qui est, on va dire, plus au courant que Alain. Quel message tu aurais à passer pour les supporters bordelais ? Je n'ai pas forcément un message pommade, etc. Faites-nous confiance, etc., comme on pourrait avoir. Mais comment toi, tu ressens au final ce que vivent les supporters ?
On est conscient de la difficulté. Sans langue de bois, c'est vrai que même nous, sur le banc, par moments, on a du mal à voir les choses, les bonnes choses, du bon jeu. On voit qu'effectivement il y a un manque de talent. Moi je peux parler un petit peu plus librement, mais bon, sans pour autant avoir une grande crédibilité, parce que je suis entraîneur des gardiens, donc c'est peut-être différent. C'est vrai qu'il nous manque du talent dans cette équipe. Tout à l'heure je vous ai dit effectivement qu'il fallait avoir de la patience, qu'il fallait attendre une bonne dizaine de matchs pour avoir un jugement. C'est vrai que ça reste quand même assez aléatoire parce qu'on a le même effectif, sensiblement le même effectif, et je pense qu'on est un petit peu en bout de souffle par moment. Alors on s'accroche, on bosse encore plus, cette façon de dire, on va travailler, non, on travaille déjà beaucoup, on essaye de travailler bien, on lâchera rien comme disait Alain. Bien sûr on peut comprendre l'inquiétude des supporters. Moi, ils ont le droit de manifester. Moi, j'ai poursuivi, j'ai lu attentivement ce qui était écrit sur Internet avec vous. On est conscient de tout ça. On fait le maximum. Mais je pense que les joueurs doivent prendre aussi leurs responsabilités. Se bouger le cul un peu plus, ça c'est certain. Moi, je le dis. Sur le match de Paris, moi, j'ai un seul regret. De par ma position d'entraîneur des gardiens, c'est que je trouve qu'il aurait fallu un peu plus d'agressivité, que ce soit encore plus difficile de marquer des buts chez nous, qui plus est, devant notre public. Plus d'agressivité, plus de méchanceté. Mais bon, on travaille et on espère que ça va bien se passer pour les journées qui vont venir.
Eh bien, merci pour ta franchise en tout cas.
Même question Alain, ouais. Toi qui n'as pas vu justement ce qui s'est dit sur le chat.
Alors qui va imaginer les trucs.
Non, mais je vais être un.
Je ne suis pas l'ivoirien quand même.
Je vais essayer d'être le plus court. Par exemple, le cas le plus, je pense, un peu plus compliqué ce soir, c'est quand vous avez parlé de place. Beaucoup de personnes ici, même en oubliant que Bordeaux n'a pas forcément toujours été en haut de l'affiche pendant 40 ans, a toujours eu un passé, beaucoup de coupes européennes jouées. Voir son club pour un supporter, on va dire, galérer autant, au final, pour certains supporters, c'est très pénible. Donc la même question qu'à Franck, sans langue de bois. Sans langue de bois, quel message tu as à leur dire et comment toi tu vis ce moment un peu délicat?
Écoutez, nous on lâchera rien, ça c'est certain, jusqu'au bout. La deuxième chose, l'année dernière on a eu une saison aussi où on pensait qu'elle ne serait pas bonne, on a fini 7e, 8e de finale d'Europa League, on a gagné la Coupe de France. Donc voilà, il faut se serrer les coudes, on a encore une année difficile, il faut en être conscient. Je sais que ça ne fait pas plaisir parce qu'on aimerait avoir bien plus de spectacles. Vous savez que nous, sur le banc aussi, quelquefois, on a envie de partir à la mi-temps, de rentrer au vestiaire et de plus ressortir. Parce que c'est dur, parce qu'à force de donner le maximum la semaine et de voir les choses se concrétiser le week-end et qu'on ne le voit pas, par peut-être un manque d'investissement de la part de certains joueurs. Voilà, moi, je pense qu'il faut serrer les coudes de part et d'autre. Il faut se dire que cette année... Sans vos encouragements, on n'avancera pas. Nous, on veut bien donner d'un côté, il faut que vous nous aidiez à donner de l'autre. Je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que si on réunit tous les ingrédients de part et d'autre, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Et tout à l'heure, je parlais de place, mais on discute maintenant. Qui sait, peut-être on finira 6e, 5e, on ne sait pas, tout peut arriver au football. Moi, je souhaite qu'on finisse le plus haut possible. C'est ce que souhaitait le coach aussi, il aurait le même discours s'il était ici. Donc voilà, donc... Soyez avec nous, croyez-moi, on donne tout, on a donné depuis 2 ans, on va donner encore pendant 2 ans, mais cette année, ça sera l'année la plus importante pour nous. Voilà.
Et le stade qui se vide, comment vous le vivez? C'est la dernière question du chat et je pense qu'on va pas conclure.
J'en aurai une toute dernière après pour rigoler.
Ouais. Non, mais c'est pas tant comment vous... Au final, quel supplément ça rajoute?
Ouais,
à
mais
la tâche.
Le stade, c'est en général. On s'aperçoit que tous les stades se vident parce que il y a de la concurrence partout. On est dans une société à l'heure actuelle très difficile parce que le coût de la vie devient de plus en plus cher. Il y a des gens qui investissent tout dans un stade parce que avec la famille ils vont voir des matchs, mais quand ils ne sont pas récompensés, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie d'aller au match suivant. Plus on est haut dans le championnat, plus les gens viennent au stade, ça c'est connu partout. Mais bon, voilà, c'est là qu'on voit dans des moments difficiles si tout le monde s'accroche et tout le monde suit. Une équipe sans ses supporters, elle ne peut pas avancer. Donc moi ce que je souhaite, c'est que tout le monde se donne derrière l'équipe. C'est Bordeaux, c'est l'équipe de cœur. Moi, je dis que ce club, il y a beaucoup à faire encore. Il y a de très bonnes choses à faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher maintenant.
Émeric, du coup...
Oui, moi, c'était juste pour... Alors moi, à titre personnel, j'adore le personnage de Francis Gillot. Mais son style dans sa communication, alors on changera pas son caractère, je sais pas l'âge qu'il a, 55 ans à vue de nez.
Non, il a le même âge que moi, 53.
Oh là, j'ai arrondi à 55, je faisais un tout petit peu vieilli, 53, il a 53, c'est donc on changera pas son caractère.
Alors on fait 37.
On rentre dans les coups de la retraite bientôt.
Ouais, enfin, on changera pas son caractère, j'en suis bien conscient, mais alors encore une fois, moi j'adore son personnage, son style, mais est-ce qu'il pourrait pas un peu plus, on sait qu'il aime pas trop les journalistes en plus, mais est-ce qu'il pourrait pas un peu plus sourire en conférence de presse et être un peu moins austère, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui lui reproche ça.
C'est pas Danny Boone, quoi, le type.
Non, mais pas devenir un comique, il changera pas son caractère, alors, mais être un peu plus jovial, parce qu'après, franchement, il y a des gens qui viennent pas au stade, et quand on leur demande pourquoi, ils disent...
Non, arrête.
Sérieux. Oui, c'est peut-être une excuse de balle, mais les gens se cherchent des excuses, et justement, c'est des pelots. Il y en a qui disent que voilà, la communication du club ressemble très austère, par Gillot, par Trio, par tout ça, donc est-ce qu'ils pourraient pas tout simplement amener un peu de joie de vivre?
Je trouve qu'on a un président extraordinaire qui a son franc-parler, ça c'est
j'aime bien le personnage.
Et ensuite, en parlant de Francis, je le connais depuis très longtemps. Francis, c'est un ch'ti. Il faut monter un petit peu dans le nord pour voir un peu comment ça se passe. C'est un pince sans rire.
Moi,
je trouve que c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité, qui a une intelligence qui ne se laisse pas avoir facilement par les médias, parce que je peux vous dire que les médias, ils veulent l'avoir tous sur les plateaux télé, mais lui, il s'en fout. Donc ça fout les boules un peu aux médias, c'est pour ça que Tantan derrière, il se fait tirailler.
Ça fout les boules aux supporters. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Ouais.
Non, non, mais lui, il n'a pas envie, il n'a pas envie de cette lumière-là. Donc moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien. Il a une ligne de conduite, il s'y tient. Par contre, quand il dit les choses, il le dit très haut et très fort, que ce soit à la presse, que ce soit aux joueurs, parce que je peux vous dire que moi, j'ai vu des ronflements dans les vestiaires. J'étais mal à l'aise quand je suis à côté de lui d'entendre parler comme ça. Moi, si je suis un joueur, je vais sous le ban de suite. Donc, quelque part, c'est rare quand il tape du poing sur la table, mais quand il tape, je peux vous dire que ça fait bonheur les mecs. Alors, on aime ou on n'aime pas, sa porte du vestiaire est toujours ouverte pour les joueurs. Il n'a jamais fermé la porte. Alors, vu son caractère, vu sa tête, vu parce qu'il rigole pas, moi qui le connais depuis très longtemps, je peux vous dire que c'est un plaisir de travailler avec lui.
J'imagine qu'en privé, il doit rigoler.
Si demain il me dit, Alain, je m'en vais encore prolonger pour 10 ans et qu'il me dit, tu vas avec moi, je vais en galopant.
Voilà. Non, mais moi, le problème, justement, c'est que dans une société où aujourd'hui la communication prime, l'image médiatique dont Bordeaux souffre et dont vous avez parlé tout à l'heure, comme quoi on a minimisé la 7ème place, on a minimisé la Coupe de France, est-ce que justement, alors je cherche la petite bête encore une fois, je suis pas forcément quelqu'un qui est très axé théorie du complot, voire même pas du tout, mais est-ce que justement le fait que Gillot, certes c'est sa ligne de conduite, et moi à titre personnel je répète, je l'aime bien cette ligne de conduite, mais est-ce que le fait que Gillot soit anti-média, pour schématiser, ça ne pénalise pas le club aussi dans cette image médiatique par rapport au Bordeaux bashing qu'on a tous les jours et qui vide le stade et qui saoule tout le monde?
Non mais attendez, moi je vois des mecs, des entraîneurs aller sur tous les plateaux télé, mais j'en ai marre de les voir quoi.
Oui moi aussi c'est pareil, pour ça moi juste au milieu.
Non mais lui il a pas besoin de ces lumières là, il a été joueur de haut niveau.
Ouais, mais elle fait partie du métier aussi.
Mais il accepte. Hein. Le point presse au club et le point presse des médias veille oui. et après match, il est fait. Après, il n'est pas là pour aller se mettre à genoux sur tous les plateaux de télé pour faire plaisir aux journalistes. Ouais, parce que moi, j'ai débuté à Sochaux avec Frédéric Hans, d'accord ? Il allait sur tous les points presse de Canal+, à Paris, partout. Quand il a été limogé de Sochaux à Noël, eh ben on l'a laminé de tous côtés. Parce que vous n'avez pas de cadeau. Et ça, on n'en a rien à foutre. Que vous plaisez ou que vous ne plaisez pas, vous n'avez rien à foutre. Vous, ce que vous voulez, c'est faire tourner une équipe et faire tourner un club. Le reste, on s'en fout.
Voilà, j'aimerais bien que cette vision passe auprès des supporters et des grands médias.
Merci beaucoup. Et en tout cas, c'est dit encore une fois avec franchise. Messieurs, on va enfin vous libérer. On est désolé pour le retard encore une fois.
C'est la pause,
on a bien mangé. Merci de votre accueil.
Il reste deux bouteilles de pif.
J'aimerais juste me faire le porte-parole parce qu'en plus je suis assez outré de voir un petit peu, d'imaginer en tout cas, n'ayant pas le chat sous les yeux, ce qui a pu peut-être se dire. Marc me fait signe, voilà. Sincèrement, c'est un grand plaisir et nous on est extrêmement heureux de vous avoir à chaque fois parce que contrairement à ce qui a pu se dire, je pense que les gens se font un avis et sont sourds par rapport à tout ce qu'on peut leur dire et font se biller en tête vers leur idée, leur propre idée sans écouter. Oui, je parle pas de tout le monde. Hein.
Des vrais supporters ou des faux vrais.
Je vous invite, messieurs, en tout cas, sans passer de la pommade ou je sais pas quoi, j'ai rien à y gagner, à continuer ce que vous faites et à continuer à essayer de mener le FCGB tant bien que mal. Je vous souhaite énormément de courage pour le Ligue Europa qui va arriver, pour les compétitions cette année. Moi, vous m'avez fait rêver parce que c'est la première fois de ma vie que je gagnais la Coupe de France. Et voilà, ça, j'oublierai jamais.
Nous aussi. Non, mais juste pour dire que chacun a le droit de penser ce qu'il veut.
Oui, bien sûr.
On est dans une liberté d'expression et encore, on est heureux d'être dans un pays où on peut encore le faire, tant mieux. Mais après, chacun a ses droits de penser ce qu'il veut, mais... Je crois que les choses, il faut les dire simplement, les faire aussi du mieux possible. Nous, on a un métier qui nous passionne énormément. Et tant qu'on est pris par cette passion-là, on ne doit rien lâcher. Et le plaisir, il est là.
Mais voilà. Là où je voulais en venir, c'est évidemment, tout le monde va s'exprimer. Mais c'est qu'en tout cas, vous, rien ne vous oblige à vous exprimer là-dessus. Vous venez à la rencontre des supporters. Non, mais faut pas minimiser ça non plus. Tout le monde ne le fait pas. Et sincèrement, c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir ici. Parce qu'on passe des émissions super à chaque fois. Et que... les gens vont dire ce qu'ils veulent. Je suis persuadé d'une chose, c'est que le podcast de cette émission-là, il va être écouté énormément de fois.
Ouais, mais dire que ce club sans supporter, on n'est rien. Donc c'est important que tout le monde suive. Merci de votre accueil.
Après moi, je suis d'accord quand même avec Franck, et j'encourage aussi le staff à faire passer le message, mais quitte, je sais pas moi, à organiser un stage commando ou j'en sais rien. Mais l'agressivité. Non mais l'agressivité c'est quelque chose d'important, on se plaint, et moi le premier, que les joueurs, on a l'impression que dans le 11 type aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qui jouent sans envie, sans motivation, parce qu'ils ont perdu un peu l'amour du maillot, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je les encourage à aller... Il y a une salle au château qui s'appelle le Salon des Internationaux, il me semble.
Oui.
À regarder qui a porté ce maillot et à faire un peu honneur aussi à l'histoire de ce club. Alors, je sais que c'est un vœu pieux, mais quand on croise ces joueurs-là qui... sont nonchalants et qui, quelque part, et il faut qu'ils comprennent aussi que par leur comportement sur le terrain, ils insultent un peu les supporters, beaucoup même certains, et moi ça me fait mal, voilà, je le dis, et ça me pèse. Quoi.
Juste avant de finir.
La question que personne ne se pose.
Question que personne ne se pose, Marc, on va faire très vite, on rappelle le texte. Pourquoi Alain Bénédé et Franck Venton ont accepté de venir à Gironde Analyse?
Allez, la dernière, c'est parce que Marc vous saoule à cause de ces textos. Donc je remercie les supporters de ne pas être tombés dans cette...
Ça se voit que c'est toi qui les fais, les sondages, hein, qui gère les votes et tout. Hein.
Corruption.
Ah oui, clairement.
Ensuite, parce qu'on supporte Manteau, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris la blague, les amis. Donc,
je suis trop intelligent pour eux. C'est
23% des votes.
Fabuleux.
Avec 25,6% des votes, donc et troisième parce que vous avez perdu une partie de belote dans l'avion entre Chilo et le vélo. Ensuite, avant-dernière, parce que le barbecue, c'était l'occasion de faire un barbecue gratuit. Et donc, première avec 32,6% des voix, parce que quand même les trois se séparent de très peu. Parce que Bordeaux est notre religion et qu'on a confiance en la Bénédé. Donc
comme
moi, j'ai
ouais
une...
j'ai une demande. Un petit surnom dans le
j'ai une demande. Franck, vu que ce soir, ça, c'est la numéro 1.
Il faut le faire dire à Francis Gillot.
Faut faire passer le surnom dans le... vestiaire.
Voilà, je pense que dès demain matin, ça va être répété.
La BND, voilà.
Et le faire dire à Francis Gillon, conférence de presse.
Et je pense qu'on va y acheter une soutane.
Et ben, la prochaine fois qu'il viendra journaliste, il viendra en soutane. Voilà,
c'est soutane. Et surtout, la prochaine fois, on trouvera encore plus pourri.
Ah oui.
C'est possible.
Je comprends maintenant, à chaque fois qu'on se déplace, il va brûler un siège. Genre,
Allez messieurs, sincèrement donc merci beaucoup.
Merci à vous.
On va remercier également tous nos auditeurs.
On finit comme d'habitude.
Et donc... Oui, bien sûr, par les phrases. Thibaut, les phrases. Eh bien, tiens, nos deux invités vont chercher une phrase rapidement.
Thibaut. Claude Bèze, à jamais.
Je crois qu'ils n'ont pas compris le concept. En fait, oui, on a l'habitude de finir tous les émissions avec une phrase. Donc, celle de Thibaut, c'est Claude Bèze, à jamais le premier.
Et celle-là, attention,
la mienne, c'est « Fais-moi mal, Carlo
». Ensuite, Cyril.
Bordeaux 99, ça, c'était mon kiff.
Moi, je vais m'adapter ce soir. Messieurs, c'est pour vous que vous coachez, mais c'est Bordeaux que vous représentez.
Faut que fassiez... Non.
Moi, j'ai... ça change pas beaucoup d'habitude. Ouais.
Merci. Franck, une idée ou pas du tout?
Non.
Non, on n'est plus de cours.
Ça marche. Eh ben, ça
ils sont tellement consternés.
Ouais.
Vous avez pas un truc à vendre? Non, rien.
Peugeot 304, non. Allez,
bonne soirée à tous.
Bonne soirée et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.
Ouais, les gars,
bon, jingle. Les gars, ouais, il y a encore les micros, je vous remercie. Hein? Ouais, bah il y a le podcast qui va être disponible bientôt sur le site. J'espère que je suis sur la bonne piste. Allez, ciao à tous. C'est la 11, tac. Bye bye. C'est bon.
Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site girondeanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts des émissions, les interviews, le chat et toutes les infos sur les Girondins de Bordeaux. A bientôt dans G1.